J'ai beaucoup de regrets de vous entendre un peu trop tard pour ce qui me concerne, parce qu'il y a beaucoup de théories dont j'aurais pu profiter. Mais il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais juste vous interpeller. Bon, il semble quand même que vous basez beaucoup de choses sur le dialogue. Or, si mes souvenirs sont exacts, il y a des périodes durant lesquelles le dialogue ne parle fort des ados. On pose des questions, on a des réponses d'une ou deux syllabes et c'est tout. Donc ça c'est quand même quelque chose, comment créer ce climat favorable à l'échange. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une question d'interprétation de l'adulte aussi. Vous dites, en citant l'exemple de l'ado qui refuse d'obéir, d'obtempérer, vous y voyez, vous interprétez positivement. Moi je dis c'est un manque de respect, donc c'est négatif, mais c'est la même attitude qui est jugée différemment. Comment savoir qui a raison ?
Moi.
Merci, j'achèterai votre livre.
Ce que je vous propose, c'est de croire quelque chose qui vous rendra plus heureux. C'est ça que je vous propose. C'est au fond, si vous croyez qu'il vous manque... Ça ne veut pas dire d'ailleurs... Je rembobine. Ça ne veut pas dire qu'un adolescent peut ne pas manquer de respect. Je ne suis pas en train de vous dire, c'est juste magnifique, tous leurs comportements sont fantastiques. Non, ils sont parfois irrespectueux. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une petite jeune qui est arrivée dans mon bureau, mais juste odieuse. C'est rare, ça m'arrive très rarement, mais odieuse. Le truc qui monte comme ça, et je me dis, bon, j'en fais quoi ? Alors moi, je ne suis pas la mère, je peux la mettre dehors en lui disant, bon, ben, au revoir mademoiselle, je ne peux rien faire pour vous. Mais je me dis, mais au fond, elle est là, elle est en face de moi, elle est venue chercher quelque chose, sinon elle ne serait pas là. Alors le premier truc, c'est, ouais, mais maman, elle m'a dit qu'il fallait que je vienne. Ça ne suffit pas, ça, en général. Je lui dis, ah bon, parce que vous écoutez ce que dit votre mère ? J'adore ! Non, dis-moi d'accord, ouais, non, d'accord. Donc, après, on peut négocier. Donc, oui, ils peuvent manquer de respect. Et je le lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit, mais je ne me sens pas respectée au travers de votre attitude. Et je peux formuler ça. Et de dire à l'enfant, à l'adolescent, de lui dire, mais là, moi, je ne me sens pas bien avec ça. Là, vous êtes en train d'exprimer ce que vous sentez. En message « je » plutôt qu'en disant « tu ». J'aurais pu lui dire... faites chmirne, tirez-vous. J'aurais pu faire ça. Mais je me dis, au fond, elle est là, peut-être que je peux lui offrir un bout, et que si je me dis, dans son attitude, elle a une intention positive vis-à-vis d'elle, pour elle-même, pas pour moi, hein. Pas pour moi qu'elle a une intention positive, mais c'est pour elle. Donc si je prends en compte cette intention positive pour elle-même, et si je la cherche, ben, je me dis, mais au fond, elle a eu affaire à je ne sais pas combien de psys. Je vous décrypte le truc. Hein. Elle a été hospitalisée dans une unité psychiatrique, donc des psys, elle en a vu un paquet. Hein. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais en fait, vous avez l'habitude de faire des séances en silence. Elle a dit, bah ouais, moi, ça fait des années que je fonctionne comme ça. Ah, je lui ai dit, mais on va changer de règle du jeu. Donc au fond, elle était dans sa propre représentation des choses. Et si je m'étais arrêtée à mon sentiment qu'elle me manquait de respect, eh ben, elle serait repartie. Il ne se serait rien passé. Là, je l'ai accueillie, j'ai dit, je ne me sens pas respectée par votre attitude. Je lui ai dit, mais maintenant, voilà comment moi je travaille, comment je fonctionne. Et je lui ai expliqué les règles de fonctionnement dans le coaching avec moi. Et je lui ai dit, mais si vous ne voulez pas, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous êtes libre. Et je perçois tout d'un coup chez elle, en fait, la peur. T'es qui, toi ? Je ne te connais pas, tu me poses plein de questions sur ma vie personnelle, donc je me protège. Donc hop, silence, hein, comme elle avait l'habitude de faire avec tous ses psys. Et au bout d'un moment, moi j'étais crevée, je ne vous dis pas, mais tout d'un coup, il y a un truc qui émerge et qu'elle commence à me parler de son projet professionnel. J'étais la première personne à qui elle en parlait. Elle n'en avait jamais parlé à personne, ni ses amis, ni son copain, ni sa famille, personne. Elle me dit, mais en fait, dans ma vie, moi, je voudrais faire ça. Et je vais me dire, oh, génial, moi, je chope le truc. Je me dis, super, vous avez un projet. Et il tient la route, en plus, projet. génial. Elle repart toute guillerette. Je me dis, wow, il s'est passé un truc. Elle vient aujourd'hui, le sourire jusqu'aux oreilles, alors qu'elle était venue comme ça. Et puis elle me dit, j'ai parlé de mon projet à mon prof, et puis qui en a parlé à mon doyen. Et mon doyen, il s'est renseigné. Et puis il y a une formation qui commence là, et je vais pouvoir y aller. Et elle était rayonnante. Et je me dis, mais chercher l'intention positive permet ça. C'est-à-dire d'accueillir l'autre en lui disant, mais si je pense que ce que tu, ta manière de te comporter a quelque chose, enfin, a une, c'est important pour toi, il y a quelque chose derrière d'intéressant, alors je lui permets de s'ouvrir. Si je la disqualifie, elle quitte mon bureau et c'est terminé. Ça va ? Quelle était votre deuxième question ?
Oui, c'était la façon de créer le dialogue à quelqu'un qui,
oui,
qui
excellente
n'en veut
question.
Pas.
Quand quelqu'un vous raconte une histoire, quelle est la première chose que vous faites ? Genre, il y a quelqu'un qui vient vous voir, que ce soit un ado ou un adulte, et qui vous dit « j'ai un problème ». Et qui vous raconte votre problème, son problème. Quelle est la première chose que vous faites ? Inversement d'ailleurs, quand vous avez un problème, vous allez voir quelqu'un, quelle est la première chose qu'il fait ? Parle de lui. Ah bah c'est comme moi, tu sais pas ce qui m'est arrivé la semaine dernière ? Et brrr. Ou trouver une solution. Ah bah moi si j'étais à ta place, je ferais ça. Pardon ? Il nous écoute pas. Vous avez déjà remarqué combien de fois on fait ça avec les jeunes ? Non, pas vous, hein, dehors. À peine il ouvre la bouche, il a un problème, que déjà vous avez une ribambelle de solutions, qui sont les vôtres, pas les siennes, d'accord ? Qui lui donne donc à lui le sentiment que c'est juste un incompétent, par rapport à vous qui êtes juste un expert. Vous sentez le décalage qu'il y a ? Qui fait que progressivement, à force d'avoir des valises de conseils dont il ne sait pas quoi faire, des valises de jugement autour de « j'aurais dû me comporter autrement, l'autre, etc. etc. » Mais qu'est-ce qui se passe la fois d'après ? Il ne dit plus rien. Ben pour cause. Il n'y a pas des gens à qui vous ne racontez pas grand-chose parce que vous savez que de toute façon, vous n'allez pas être écouté. Les ados, ils se font conseiller par leurs copains, par leurs parents, par les grands-parents, par les oncles et les tantes, par les enseignants, par les conseillers en orientation, par les psys. Vous vous rendez compte, tous ces gens qui ils sont juste saturés. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on leur donne comme image quand on leur parle ? Mais pourquoi tu ne me parles pas ? Le silence. Le silence. Le silence, pour moi, est une indication majeure de défense de territoire. Un ado qui dit rien est un ado qui défend son territoire. Il protège sa vie privée contre toute intrusion, jugement, conseil que nous, adultes, on pourrait poser. Arrêtons de les juger et de leur donner des conseils. Peut-être qu'ils continueront à nous parler. Il me semble. En tout cas, vous pouvez essayer.
Je dirais que c'est un peu contraire à la philosophie que vous avez, parce que vous préconisez plutôt le dialogue, et puis après, maintenant, vous dites qu'ils ont un peu ras-le-bol, qu'on leur cause tout le temps.
Ah, pas qu'on leur cause, qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a une différence entre écouter, poser des questions, s'intéresser, s'ouvrir à leur vision du monde et leur dire ce qu'ils ont à faire. Il y a une sacrée différence. Si vous arrêtez de leur dire « tu devrais faire ceci » et que vous lui dites « mais dans cette situation, qu'est-ce que tu vas mobiliser pour t'en sortir ?» Vous sentez la différence que ça fait ? Enfin, pour moi, ça fait une sacrée différence. Moi, quand j'ai un problème et qu'on me dit « ah oui, ça m'est arrivé hier soir, j'avais une difficulté et j'avais trois amis autour de moi et toutes les trois sont parties dans leur histoire. Ah, mais tu devrais faire ceci dans cette situation. » Puis l'autre disait, mais non, tu devrais faire ça. Puis je les regardais, je me disais, mais j'ai rien demandé. J'ai juste dit que j'avais un problème. J'ai rien demandé. Et c'est juste une intrusion. En plus, au passage, ça a l'air de dire, dis donc, tu t'en sors pas toute seule, heureusement qu'on est là. On va te dire ce qu'il faut que tu fasses, toi. Mais c'est insupportable. Non seulement c'est insupportable, mais ça ne leur permet pas à ces jeunes qui ont parfois des difficultés à trouver leur propre solution, ça ne leur donne pas confiance. Si vous leur dites, mais au fond, tu as les ressources à l'intérieur de toi, comment tu vas aller les chercher? Vous partez du principe que eux ont leur solution, mais qu'ils ont juste besoin de la trouver. Quand vous posez une question comme ça, vous leur offrez encore une fois la possibilité de changer.
Cette façon, et puis que c'est chaque fois la même réponse,
je ne sais pas. Qu'est-ce que je l'aime, cette réponse. Vous savez ce que c'est une pensée au niveau physiologique? Une fleur au niveau physiologique? Mon Dieu, j'ai une fleur dans la tête. C'est de l'électricité. Une pensée, c'est de l'électricité. C'est des neurones qui se connectent et ça fait... D'accord? Ça va super vite. Plus vous avez une pensée, l'automatisme, hein, les pensées automatiques, c'est des connexions neuronales qui sont extrêmement puissantes, qui vont très très vite. D'accord? Donc vous n'avez plus besoin de penser aux choses, ça se fait tout seul. Donc ça, ce sont des habitudes. Et puis, quand il y a un truc auquel vous n'avez jamais pensé, ben le courant électrique, il doit chercher son chemin dans toutes les connexions qu'il y a dans notre cerveau. Et bien la réponse, elle ne vient pas. Ça vous est jamais arrivé de dire « je ne sais pas » ? Ben oui. Nous aussi, parfois, on ne sait pas. Alors, soit il y a le « je ne sais pas » qui veut dire « fous-moi la paix ». Ce n'est pas exclu. Et puis il y a le vrai « je ne sais pas ». Et bien, moi, dans ces situations, je leur dis toujours « ok, c'est normal que vous ne sachiez pas. Vous n'aviez jamais pensé à ça jusqu'à maintenant. Vous allez avoir besoin d'y réfléchir pour que cette connexion, elle existe, elle s'installe. » Je leur explique. Je leur fais un petit dessin avec mon petit neurone. Et puis de dire « mais plus vous allez y réfléchir, et plus ça va, la solution va apparaître. » Mais donnez, offrez-leur votre confiance sur le fait que vous pensez qu'ils vont trouver leur propre solution. Et ça, c'est un truc important. Moi, souvent, je leur dis, quand ils débarquent et qu'ils ne me connaissent pas encore, je leur dis souvent, mais si vous pensez que moi, je sais ce qui est bon pour vous, vous vous trompez. Ah bon, vous ne savez pas, mais je suis là pour ça, moi. Je suis là pour que vous me disiez ce qu'il faut que je fasse. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Ils attendent qu'on leur donne des solutions parce que c'est aussi beaucoup plus facile et c'est moins inquiétant. Et de leur dire, mais au fond, moi, la seule chose que je sais faire, c'est vous poser les questions qui va vous permettre de trouver vos solutions. Qui suis-je, moi, pour vous dire ce qui est bon pour vous? Et d'apprendre ça, ça leur offre déjà cet espace en disant, mais au fond, je vous fais confiance en tant qu'individu pour trouver vos propres solutions. Tout d'un coup, vous installez chez eux l'impression que, ah ben oui, je peux trouver mes solutions. Alors au départ, il y a « je ne sais pas ». Alors après, il faut décrypter. Est-ce que c'est le « je ne sais pas » que fous-moi la paix, ou est-ce que c'est le vrai « je ne sais pas » ? Ça, ça dépend des situations. Alors des fois, je dis « faites comme si vous saviez ». Ça, c'est un petit truc de psy. D'autres questions ?
Expérience par rapport à la valorisation, parce que certains ados qui ont un comportement difficile, peut-être assez agressif, ou qui se sentent très mal dans leur peau, peuvent rejeter la valorisation à premier abord, du style « de toute façon je suis nulle », peut-être pas l'exprimer explicitement, mais peut-être imaginez tout de suite, ah ouais, elle me fait un compliment, mais en fait, c'est pas vrai. Elle veut juste me faire plaisir, ou de toute façon, c'est pas vrai parce que je suis nulle, etc. Et une des expériences que j'ai faites, c'est que parfois, au lieu de valoriser en faisant un compliment qui semble très positif, c'est simplement donner un retour qui serait une manière de dire, j'ai vu que tu existais. Et j'ai lu ça chez un psychologue que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle Glasser, qui parlait de la vidéocaméra, donc c'est-à-dire qu'on passe vers le jeune ou vers l'enfant simplement comme si on avait une vidéo, puis qu'on prenait une image, une photo de ce que ce jeune est en train de faire à ce moment-là, et puis qu'on restitue simplement ce qu'on voit. Ah, j'ai vu que tu bricolais, ou bien même peut-être positif, mais même pas forcément. J'ai remarqué que tu avais regardé une vidéo sur tel sujet. J'ai remarqué que tu avais un devoir sur ceci, cela. Et en fait, même si ce n'est pas une expression positive, j'ai trouvé super ce que tu as fait, le fait d'avoir simplement vu exister l'autre lui donne le sentiment d'exister à nos yeux et est interprété par l'autre, par l'enfant ou l'adolescent, comme quelque chose d'extrêmement positif. Et ça, ça m'a permis aussi en tant qu'enseignante de voir que mes élèves qui voulaient tout de suite nier ce que je disais de positif parce qu'ils avaient une idée très négative d'eux-mêmes, finalement, se sentait exister à travers ça. Donc la valorisation, moi je dirais que c'est pas forcément toujours en disant t'es super, t'es génial, ce que t'as fait c'est bien.
Oui, je vous remercie, c'est une remarque très importante. Je pense qu'effectivement les signes de reconnaissance peuvent ne pas être acceptés. C'est-à-dire quand je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, s'il y a un décalage entre comment vous vous sentez et ce que vous dit l'autre, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire... Pff. Ou alors, qu'est-ce qu'elle me veut ? Si elle me fait compliment, c'est qu'elle veut quelque chose ou qu'il veut quelque chose. Hein ? On cherche l'intention, genre tu veux obtenir quelque chose de moi, sinon tu ne me ferais pas de compliment. Donc effectivement, vous avez raison de tenir compte du niveau d'estime, hein, du niveau de confiance en soi de l'adolescent. Certains compliments vont passer, d'autres pas. Et c'est important de pouvoir regarder si l'enfant ou l'adolescent accepte le compliment. S'il ne le fait pas, en tout cas pour ma part, moi je suis plus trash. C'est-à-dire, c'est moi je le confronte en disant, mais vous croyez que je vous mens ? Quand je vous dis que c'est bien, vous croyez vraiment que je vous mens ? Mais j'aurais quoi à gagner, moi, à vous dire que c'est bien ? Non, je vous dis que c'est bien parce que je trouve que c'est bien. Et vraiment, j'insiste et je mets de l'intensité là-dedans, jusqu'à ce qu'ils me disent « Ah oui, et je veux un vrai oui. » Et tant que je n'ai pas le vrai oui, je ne lâche pas. C'est vraiment de « Ah oui, vous êtes en train de me faire un compliment en fait. » Donc ce que j'ai fait, c'est bien. Et j'explique pourquoi je trouve c'est bien. Si parfois le compliment ne passe pas, c'est parce qu'il n'a pas de sens. Donc je vais donner du sens. Je dis « Mais quand vous me dites que vous avez fait ça, de telle manière, avec telle insistance, en vous accrochant, en mettant en route des ressources, en allant chercher de l'aide. Mais je trouve ça génial, moi. Hein, de contextualiser, pas juste « Ah, t'es super !» Il peut que le rejeter. Mais en expliquant pourquoi, qu'est-ce qui m'amène à dire ça, jusqu'à ce qu'ils me disent « Oui, d'accord. » Parce que c'est la première étape qui va ensuite faire que les suivants de signes de reconnaissance vont être accueillis. Donc votre remarque est très importante, je vous remercie.
J'aurais une question, on en parle là, vous l'évoquiez tout au début, le manque de confiance. C'est vrai que c'est une période de transition, tout bouge, tout est flottant, mais pourquoi ça se traduit presque aussi systématiquement par un désamour ? Enfin, c'est là, le manque de confiance, parfois c'est vraiment ce désamour tellement profond, ce mal-être, cette nausée à la Sartre, presque d'être soi-même et d'être tellement mal avec soi-même, et de quoi ça vient ? Bien sûr, il y a ce... mais pourquoi ça va aussi loin, finalement ?
10 compliments pour un signe de reconnaissance négatif. Depuis qu'on est haut comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Ah, fais pas ça, t'es fou ! Ah, mais t'es en train d'abîmer mon truc, là ! Oh là, mais t'as vu comment t'as rangé ta chambre, là ? Sans arrêt. À longueur de journée. Nous avons un déficit chronique de reconnaissance depuis petit. Alors après, on apprend à vivre avec. Mais à l'adolescence, hein, c'est un moment de fragilité. Liquéfaction, vous vous souvenez ? C'est un moment de fragilité majeure. Et c'est un moment, encore une fois, où on va prendre des décisions qui sont importantes. Les relations avec les autres changent. Les relations avec les adultes changent. Tout d'un coup, il faut se prendre en charge. J'avais une jeune dans mon bureau la semaine dernière, ah non c'est mercredi là, qui me disait oh là là, on a pris des décisions pour moi toute ma vie et maintenant tout d'un coup il faut que je choisisse mon métier, je ne voulais pas choisir à ma place. Sérieusement, elle me disait, mais à votre avis je dois faire quoi? Je la connaissais depuis 10 minutes. Cette idée que Tout d'un coup, il faut se prendre en charge. Tout d'un coup, les choix que nous faisons de la portée réveillent tout ce déficit de confiance et d'estime de soi qui a été accumulé depuis la petite enfance. Et qu'est-ce qui se passe à l'école ? Ah, pas suffisant. Peut mieux faire. Pas acquis. On entend ça. Les gamins, ils entendent ça à longueur de journée. Mais nous aussi, hein ? Pardon ? À longueur de journée. Ah, c'est pas mal ce que tu as fait, mais si tu avais pu faire ça comme ça, ça aurait été encore mieux. On ne peut pas me dire une fois que ce que je fais, c'est bien. Donc, on accumule. Et dans ces moments de... Tout d'un coup, il faut devenir adulte. Tout d'un coup, il faut assurer. Tout d'un coup, il faut y arriver. Ben, le capital confiance à l'intérieur, il n'est pas assez solide. Donc, ça fragilise le tout.
Donc, en gros, si je vous comprends bien, ben, l'adolescence, ça se prépare avant.
Je et vous c'est confirme. Depuis
tout petit, finalement, qu'il faut travailler notamment la valorisation, la confiance en soi, tout en gardant une exigence aussi, parce que c'est ça aussi qui est délicat, hein, c'est de trouver le point d'équilibre entre la valorisation et en même temps une certaine exigence, sinon on n'avance pas aussi.
Équilibre, loi, lien, ça veut dire aussi des exigences. Hein. Parfois, j'ai des parents qui viennent dans mon bureau et qui me disent « Mais nous, en fait, la seule chose qu'on attend de lui, c'est qu'il soit heureux. » Donc, pas d'exigence de résultat. Donc, pas d'exigence de résultat. Et le gamin, la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être heureux. C'est juste le truc inatteignable.
Garçons qui ont trop confiance en eux, c'est-à-dire qu'ils ne doutent jamais de leur performance sportive, tout va toujours très bien.
En êtes-vous sûr?
Non. Le manque de confiance chez moi, c'est plutôt l'excès de confiance
qui est en fait un manque de confiance.
Oui, tout à fait.
D'accord. Donc, c'est la distinction que je faisais tout à l'heure entre l'être profond, hein, et la confiance concerne l'être profond, et la grosse tête, qui est l'expression de l'ego. Hein, l'ego, c'est cette image que l'on projette à l'extérieur, qui est une image de soi, c'est un peu un hologramme, hein, qui nous représente. Donc c'est le truc qui est la vitrine. D'accord ? Donc la grosse tête, c'est plutôt la vitrine. Donc l'excès de confiance est souvent lié à une vitrine qui est un peu trop clinquante. Mais au fond, quand vous grattez un peu, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de confiance du tout. Hein. Mais c'est souvent que plus un individu est en représentation à l'extérieur, moi plus je me dis, derrière il doit y avoir un déficit. Parce que quand on cherche à planquer ce qu'il y a derrière, c'est qu'on est en fragilité. Sinon vous êtes plus à l'aise. Donc l'excès de confiance chez moi, c'est tut, tut, tut. Grosse indication qu'il va falloir travailler sur la confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est une mauvaise évaluation, une surévaluation qui est liée à... Ouais, enfin bon, je vous le redis dans l'autre sens, mais c'est la même. Voilà, ça fait compris, je crois. Oui.
La langue, c'est aussi un atout pour lui, je dirais, un excès de confiance pour quand il sera dans sa vie future ou professionnelle, c'est aussi un atout important. Donc il ne faut pas,
La confiance, ce n'est pas la même chose que la toute-puissance. Là, on est dans de la toute-puissance, c'est-à-dire c'est je me la pète pour montrer à l'extérieur que je crois en moi. Donc là, on est dans de la toute-puissance qui peut amener certains jeunes à faire des trucs qui sont vraiment aberrants. Donc quand on est dans cette représentation-là, au contraire, l'adolescent, il prend des risques. Toutes les situations à risque dans lesquelles ils peuvent se mettre, c'est plutôt l'ego qui se manifeste et pas vraiment l'être. La vraie confiance en soi, elle n'est pas clinquante. Alors, oui, plus un être, un individu, a confiance en lui, plus il peut agir, plus il peut faire, plus il peut oser. Donc, plus on travaille sur la confiance, oui, plus on peut aller loin.
Madame, l'égocentrisme des ados, moi je trouve qu'ils sont très, ça va, sont très égocentriques. C'est beaucoup, moi, je, moi. J'ai un peu de peine avec ça. Il y a une explication à ça ?
Est-ce qu'il y a une explication à ça ? C'est une bonne question. L'égocentrisme. Je crois que c'est toute cette notion de positionnement dont je parlais tout à l'heure qui est liée au fait de je ramène à moi ce qui est important pour moi. Je vous rappelle que dans l'enfance, souvent l'enfant, bon, il joue, hein, il s'occupe, il est plus joyeux, il s'occupe des choses dont il a envie, il est plus dans le plaisir. Là, quand il rentre dans la phase d'adolescence, il va falloir se positionner. Moi, je crois que l'égocentrisme est plutôt lié à l'énergie intériorisée. C'est-à-dire que quand on fait un déménagement, ça demande de l'énergie. Donc, retour vers soi. Maintenant que ça agace, c'est... Comment dire ? Chercher l'intention... Je reviens sur la notion d'intention positive. Au fond, ce qui agace, c'est l'interprétation que vous en faites, plus que sa démarche à lui. Mais au fond, si on passait un peu plus de temps à s'occuper de nous, et un peu moins à s'occuper des autres. Vous ne croyez pas que des fois, ça nous ferait du bien aussi ? Moi, je trouve important de dire, mais je reviens vers moi. Hein, il ne faut pas s'occuper... Ça, c'est aussi Thomas dans son bourg, et c'était fabuleux son truc, qui disait, mais au fait, on passe notre temps à s'occuper des autres parce qu'on nous a dit que c'était bien. Parce qu'il ne fallait pas qu'on s'occupe de soi, il faut plutôt... Voilà. Mais au fond, moi, je trouve que ce mouvement, il est intéressant. C'est important de s'occuper de soi parce que c'est comme ça que... En cultivant son propre jardin, on peut ensuite être en meilleure relation avec l'autre. Donc moi, j'encourage l'égoïsme. L'égocentrisme, plutôt. L'égocentrisme, c'est-à-dire le retour vers soi. On passe notre temps décentré. On passe notre temps à l'extérieur. Moi, je trouve très bien et je l'encourage. Non pas dans le genre, je m'occupe que de moi, je m'occupe plus du tout des autres et je ne tiens pas compte de l'environnement, mais cet investissement vers soi, de découverte vers soi, et de pouvoir mieux se positionner, pouvoir mieux rentrer en relation, je trouve que c'est extrêmement riche. C'est ce qui nous permet ensuite de mieux nous occuper des autres. Ça va ? Une petite dernière ?
Peut-être.
Deux petites dernières alors ?
Je trouve que c'est déjà extrêmement difficile d'amener un adolescent à se prendre en charge. Et puis c'est d'autant plus difficile quand le père et la mère ont des façons d'agir qui sont diamétralement opposées.
Y a-t-il une question là ou c'était une remarque ?
C'est une remarque, mais on n'a absolument pas abordé ça ce soir. Puis je trouve que c'est important.
C'est des petits filous, ça j'ai déjà dit. Alors, non seulement ils ont un radar extraordinaire pour repérer chez vous la moindre petite incongruence, hein, si jamais vous êtes un peu à côté par rapport à ce que vous aviez dit la dernière fois, c'est bon, vous y avez droit. Et puis, ils cherchent invariablement l'écart qu'il peut y avoir entre les deux parents. C'est-à-dire, si ma papa a dit non, on va voir maman. Et c'est d'autant plus délicat quand il y a des oppositions entre les deux parents. C'est vrai quand le couple est ensemble, c'est encore pire quand le couple est séparé, et c'est encore pire quand le couple est en conflit. Maintenant, c'est la vie. Dans le sens où, quand je dis c'est la vie, je sais pas, moi, quand vous êtes dans une entreprise, par exemple, et que ben, vous profitez du fait qu'il y a peut-être à un moment donné, là, il n'y a pas le patron qui est là, et puis vous dites, allez, je vais boire un café. C'est ce mouvement-là qui nous amène vers la liberté. C'est-à-dire on va tous chercher à un moment donné cet espace qui nous permet de gagner, hein, gagner en liberté. Donc oui, il joue avec ça. Nous, notre rôle en tant qu'adulte, c'est pas de lui dire il est méchant, il cherche l'intervalle, mais de dire comment nous, en tant qu'adulte, on peut lui offrir un message qui soit cohérent. Et puis, lâcher prise aussi sur cette idée de on est des parents parfaits, on est des individus parfaits. Ben non, des fois vous vous trompez, des fois vous dites des choses qui ne sont pas adéquates, des fois il arrive à trouver l'intervalle entre les deux parents, et puis ben, ça fait partie de la vie. Donc c'est, oui, il va chercher, ils vont chercher ça. Et c'est vrai que le travail, c'est pas de leur dire vous êtes méchant, vous trouvez l'intervalle, c'est de dire comment moi je peux faire pour que l'intervalle soit le plus petit. Ça va ?
J'aimerais dire encore une dernière chose aux parents qui ont trop peur de donner des sanctions. J'ai fait partie d'une génération de 68 arts et de futurs, et nos enfants ont été élevés avec très peu de sanctions, au point qu'ils se sont sanctionnés eux-mêmes en somatisant, en faisant des accidents. Donc, mes petits-enfants, je leur ai raconté, à mes enfants comment j'avais senti beaucoup plus tard ce qui s'était passé en eux. Et j'ai l'impression, et je le souhaite, que mes enfants, comme parents, sont meilleurs que nous l'avons été.
C'est un beau message d'espoir, merci. Je reviens sur cette idée de balancier, hein, c'est-à-dire que l'histoire montre ça. Et quand vous regardez l'histoire humaine sur des grandes distances, vous voyez qu'il y a toujours les mêmes mouvements qui reviennent. Et puis, ben oui, on est allé dans l'extrême liberté. Puis, enfin, plutôt le contraire, beaucoup de lois, un peu moins de... Et puis, ben, peut-être qu'on va revenir vers quelque chose de plus équilibré. Merci.
Merci. Je soulignerai pour clore cette très très belle soirée tout d'abord un grand remerciement, mais je trouve ce qui est très intéressant, alors c'est peut-être pas ce que vous étiez venu chercher, mais c'est qu'on repart avec, ça nous renvoie à nous-mêmes en tant qu'adultes, beaucoup en fait, à la fois en tant qu'individus qui sommes quand même encore toujours confrontés aux problèmes des ados, mais qu'on a un peu plus appris à gérer, mais aussi du fait qu'on a une longueur d'avance, pas parce qu'on est meilleur, mais on a appris un peu plus, et du coup on a un petit peu plus de marge de manœuvre que nous, on sait se projeter, on sait avoir un regard rétroactif, pas eux, très peu.
Je ne peux pas m'empêcher de rebondir là-dessus, je suis désolée. J'aimerais tordre le cou à une croyance erronée, qui est qu'on ne peut pas changer l'autre. Il n'y a rien à faire. Même moi qui suis une professionnelle de l'accompagnement, je ne peux pas changer l'autre. Et parfois, j'ai des parents qui m'amènent les gamins et qui me disent « Faites quelque chose pour qu'ils changent. » Je n'ai pas ce pouvoir. Et c'est important qu'en tant que parent, hein, en tant qu'enseignant, en tant que professionnel de l'accompagnement, on puisse renoncer à cette toute-puissance qui est de changer l'autre. Mais on fait ça dans le couple, on fait ça au boulot, on fait ça partout. Hein, l'autre, j'irai mieux quand l'autre aura changé. Si tu changes, je me sentirai heureux. D'accord ? Arrêtons ça. La seule personne sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est vous-même. La seule chose que vous pouvez changer sur cette planète, c'est vous. Et du coup, vous modifiez la situation. Parce qu'en étant différent, vous modifiez la relation avec l'autre. Vous lui donnez un autre modèle. Vous lui envoyez un autre message. Et là, vous faites un petit peu plus de différent qui va donner un résultat différent. Donc, arrêtez de vouloir changer l'autre. Passez par vous. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire.
Merci, et ça va être l'applaudissement.